Michel Foucault, dans son livre « Surveiller et punir », disait « Le pouvoir disciplinaire, en effet, est un pouvoir qui, au lieu de soutirer et de prélever, a pour fonction majeure de dresser, ou sans doute de dresser pour mieux prélever et soutirer davantage. » En janvier 2020, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'indignité de ses prisons. Entre réalité perçue et réalité vécue, il m'est difficile d'imaginer la réalité quotidienne d'un détenu. À la fois banale et horrifiante, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 81 599 détenus pour seulement 62 363 places en 2024. Une personne détenue se suicide tous les deux ou trois jours. Depuis 1986, l'administration pénitentiaire est tenue par la loi de proposer des activités aux détenus, dont des activités socio-culturelles. Elles s'inscrivent dans la mission de réinsertion qui lui sont dévolues. Si l'art renvoie à la liberté de création, la prison évoque l'enfermement et la privation. Le régime en prison est celui des portes fermées. L'essentiel de la journée des personnes incarcérées est passé dans la cellule, à attendre l'heure de promenade. L'espace-temps carcéral est marqué par la rupture, le manque, la perte et l'absence. Dès lors, comment ne pas devenir fou, violent, entre les quatre murs d'une cellule? Comment sortir de la solitude? Face à ce constat, j'ai eu envie de faire un état des lieux non exhaustif des pratiques artistiques mises en place en prison, en France et au-delà. La pratique artistique en prison peut-elle être un outil politique pour ébranler la logique carcérale, un moyen de survivre à l'enfer? Au Cameroun, Steve Happy est à l'initiative d'un studio d'enregistrement en prison. Fatou, elle, a pu participer à un projet artistique à la prison des Baumettes. Pour Ronald, ancien prisonnier politique au Pérou, la pratique artistique est un outil au service de la reconnaissance des droits des prisonniers. Mais avant d'aller plus loin, je suis allée interroger dans la rue des Dromois et des Dromoises pour recueillir leur opinion sur la pratique artistique en prison.
Est-ce que vous êtes pour ou contre la pratique artistique en prison ?
Je suis pour.
Pourquoi ?
Parce que ça les occupe. Ils deviennent fous après s'ils ressortent. On ne peut pas passer sans rien faire ou quoi.
Je suis pour que les gens y créent. Ça ouvre tellement de portes, ça ramène la vie, ça réveille le dedans, le vivant. C'est tellement précieux que ça soit accessible à tout le monde. Et de remettre du mouvement, de remettre du lien.
Plutôt pour, parce que la prison, c'est une machine à récidive. Tout ce qui peut aider à la réinsertion, faut le mettre en place le plus possible.
Bien évidemment, l'art c'est pour tous. Il n'y a pas de raison de punir quelqu'un d'art, de musique, de lecture ou quoi que ce soit d'autre. Le fait d'être en prison paye déjà le prix.
C'était très bien pour moi parce que moi j'ai fait 39 mois prison ici en France et apprendre de nouvelles choses et moi pour ça je suis d'accord avec. Il y a eu activité écriture, c'était bien, il y a eu pas mal de choses.
Je l'ai pratiqué en tant qu'animateur dans une maison d'arrêt. Effectivement, c'est un moyen peut-être pour des personnes de se retrouver. Ce serait bien si, face à cette proposition, les services pénitentiaires soient aussi partie prenante de cette activité.
Salut la famille, salut la musique. Je vous dis encore, la vie d'un homme, c'est le vécu. C'est pas seulement les têtus ou bien les délinquants qui sont en prison, mais il y en a qui sont victimes de la rigueur de la terre.
Avec cet extrait du documentaire Steve Happy, D'où Allah hors les murs, on part à la découverte de Jail Times Records, le label qui a vu le jour au cœur de la prison centrale de Douala au Cameroun. Un documentaire réalisé par Dionne Roche, cofondatrice du label, et produit par le magazine Pan African Music.
Je suis Steve Happy, producteur de musique, ingénieur du son. Je suis le cofondateur du projet Jail Times Records. On produit des artistes détenus et ex-détenus. C'est comme un instrument de réinsertion sociale. Avec Jail Times Records, on a installé le tout premier studio d'enregistrement dans une prison en Afrique.
Obena monyala bandongo. Obene imolene ndongo. Faire et expérimenter la musique en prison a une profondeur et une puissance vraiment assez particulière et unique. Ça redonne vraiment de la dignité, vraiment de l'espoir, une raison de se battre, quoi. C'est vraiment cet instrument sur lequel tu t'appuies afin d'exister encore. Tous les artistes avec lesquels on travaille, tous sont passés par la prison. On essaye de se battre pour changer la perception de la société, essayer de donner une seconde chance. On se rencontre toujours avec les gars pour faire les sessions de freestyle et c'est d'où sort les sons très puissants.
Moi, ce que je vois vraiment que tu fasses, sortons des clichés, non ? Rajoute une vibes. Là, c'est peut-être un beat afro-électro. Ça a beaucoup d'influence, mais je veux que tu rajoutes beaucoup plus un truc de chez toi. Tu vois, oui, tu vois, du noon, voilà. Mais chanter vraiment Djalet. Et c'est même un peu l'intensité parce que j'ai quand même envie de voir un peu l'énergie.
Ona chupona, le na chupoko, o tiano, o suna tiano.
J'ai fait pratiquement 2 ans de détention en prison avant d'être acquitté. C'est en 2018, pendant ma détention, que j'ai cofondé le projet Deal Time Records. La musique m'a redonné la vie quand j'étais en prison. Donc c'est un devoir pour moi d'offrir et de partager, de redonner cette opportunité à mes frères qui y sont encore.
Depuis la création du label, des centaines d'artistes sont passés par le studio et plus de 500 chansons ont été produites.
Il nous est arrivé comme ça 8 personnes dedans, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. Et tout d'un coup, on se met en face d'eux, et il y a une osmose, il y a une ambiance qui s'arrive à se créer grâce à ce texte.
Fatou, habitante de la Drôme, est animatrice d'ateliers de théâtre et d'écriture liés aux questions de racisme et de discrimination. Elle a participé à un projet artistique en prison, et elle revient sur cette expérience.
Salut!
Salut! Bienvenue!
Merci!
Alors, le projet, c'était Dedans, Dehors. On travaillait autour du texte de Bernard-Marie Goltès, Dans la solitude des champs de coton. C'était entre 2009 et 2013. Et en fait, c'était deux compagnies qui bossaient ensemble, la compagnie Alzar qui faisait du théâtre et Lieu fictif des questions de vidéo et de cinéma en prison depuis les années 80. L'idée, c'était de faire une installation vidéo pour 2013, Marseille, capitale européenne de la culture. On bossait à la fois avec un groupe de l'extérieur, donc moi je faisais partie du groupe de ce qu'on appelait le dehors, et il y avait un groupe de détenus qui travaillaient sur le même texte avec nous, qu'on se partageait pour l'installation vidéo à la fin. C'était avec un groupe des Baumettes. On était 16, 8 détenus et 8 personnes à l'extérieur. Sachant que les personnes détenues, c'était 8 hommes. Et nous, on était un groupe mixte à l'extérieur. Moi, je suis tombée sur un tract que quelqu'un distribuait de la compagnie Alzar. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le projet. Du coup, l'idée, c'était de constituer un groupe de l'extérieur. Et à l'intérieur, en parallèle, se constituer un groupe de détenus qui évoluait. Parce que des fois, les gens y sortent. Une fois que les groupes ont été constitués, du coup, il y avait les séances pour les personnes qui étaient à l'intérieur, de théâtre plutôt et d'expression. Et puis après, en parallèle, des séances de théâtre pour le groupe de détenus. Et au fur et à mesure, comme ça, la vidéo s'est rajoutée et on s'est croisés puisqu'on allait au Baumettes une fois par mois, quoi, juste à la fin du projet. On avait un rendez-vous hebdomadaire pour les groupes de l'extérieur. Et je pense pour l'intérieur, ça a été pareil. Et c'était des séances où on bossait beaucoup autour du corps, de la voix, du chant, beaucoup d'essais, beaucoup de jeux, et c'était pareil à l'intérieur. Pour le dispositif de fin, qui avait des fauteuils au milieu de 4 écrans où étaient projetées les images des personnes qui donnaient leur texte. Du coup, ça, c'est une installation qui durait 2h30. On a travaillé donc autour du texte au fur et à mesure jusqu'à l'étape où on se faisait filmer. pour les personnes de l'extérieur, c'était un espace qui avait été choisi, qui est la friche Belle de Mai, un espèce de bout de parking avec une flaque d'eau et un poteau. Et ce décor a été reconstitué à l'identique à l'intérieur des Baumettes. Du coup, nos camarades des Baumettes, pareil, se faisaient filmer de la même manière. Et ensuite, il y a eu un montage où on se répondait et puis on avait des textes qui étaient similaires. Et ça... L'idée, c'était de confondre un peu les personnes de l'extérieur et de l'intérieur. Nous, on a été à l'intérieur sur la deuxième phase du projet. C'est-à-dire qu'au bout d'un an et demi, on y allait une fois par mois pour se rencontrer et pour pas juste entendre les récits via les compagnies. Et aussi pour partager des moments ensemble et s'entraîner à dire ce texte dans le même espace puisque eux ils pouvaient pas sortir. C'est quand même raide la prison, moi j'ai pas cette expérience là, mais d'être dans des cellules de 9 mètres carrés, on est à 3, 2, et que du coup faire une autre activité, ça permettait juste de faire autre chose quoi, que d'être dans sa cellule ou de faire de la promenade. Je me souviens des retours qu'on avait eu, c'était cette question de se projeter. Ah bah tiens, on va avoir un rendez-vous dans 2 semaines, dans 1 mois. Et croiser d'autres personnes que juste les matons et les matones et d'avoir des personnes de l'extérieur. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de questions autour des nouvelles de qu'est-ce qui se passait à Marseille, qu'est-ce qui se passait dans le monde, même s'ils peuvent être informés, mais qu'il y ait des personnes qui leur racontent vraiment, que ce soit d'autres personnes que les matons, les profs. Après, il y a eu... moi, je me souviens, j'ai croisé deux détenus. Du coup, il y a un détenu avec qui on a entretenu une correspondance, même après le projet. Et il y en a un autre qu'on a croisé, puisqu'il a fini par bosser dans un cinéma à Marseille. Et que, du coup, c'était vraiment faire ce lien-là, parce qu'il n'y avait pas que le projet Dedans Dehors. Le Fictif, c'est vraiment une asso qui bosse autour du cinéma au Baumettes. Il y a une salle de projection, il y a des ateliers. Et par exemple, cette personne, quand elle est sortie, elle a pu avoir un poste de projectionniste dans un des cinémas à Marseille. Et c'était chouette aussi de discuter post-expérience de comment est-ce que les ponts ils peuvent se faire et quels sont les liens qui se créent. Sur la question de l'altérité et d'y aller. Nous, par exemple, on avait fait le choix de ne pas savoir pourquoi les personnes étaient détenues. Et du coup, là, le fait de ne pas savoir, ça permet vraiment une rencontre, tout en étant réaliste, de on y va, on fait un taf, on ressort. Personne n'a été payé dans cette histoire. Enfin, les détenus un peu, mais nous, non. Et que, du coup, je trouve que ça fait aussi un truc d'égalité. Je ne sais pas si ça permet d'ébranler, mais en tout cas, ça permet de questionner un truc de... c'est réel, quoi. C'est réel que même quand il va pour un atelier, tu passes 12 portes, tu rentres en même temps que des personnes qui vont pour le parloir, ce qui est quand même pas la même chose, enfin, que t'es fouillé, que tu peux pas apporter à manger, tu peux pas apporter genre des trucs sympas pour des gens avec qui tu bosses parce que tout est contrôlé. Moi j'avais déjà été pour des parloirs, pour des potes, mais c'était pas non plus la même chose. Je me souviens de l'odeur encore, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, des clés. C'est un peu caricatural, mais c'est tellement un environnement qui est froid et violent, ou des cris. Moi, je sais pas, ça a eu des conséquences sur mon psychologique et tout. Je pense que ça m'a fait prendre conscience de, en tout cas, des conditions réelles de c'est quoi la prison. Même si c'est un tout petit échantillon. C'est un projet où il fallait quand même être endurant. Ça a duré 3 ans et demi. Que des fois, j'avais vraiment la flemme, mais que j'ai l'impression qu'il y avait ce truc d'engagement aussi pour les personnes qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas le temps d'avoir la flemme. Les freins, moi je pense toutes les autorisations qu'il a fallu signer, enfin c'est quand même surcontrôlé. Hein. Je sais qu'il y a eu des conditions pour les personnes qui sont à l'intérieur. Mais vous avez qu'à bien vous tenir à carreau. On n'est pas sous le même régime. Hein. Et quel regard j'aurais sur cette expérience? Moi ça m'a fait grandir. Hein. C'est important d'animer des ateliers, qu'ils soient artistiques ou pas, mais en tout cas, de rentrer dans des espaces qui sont surcontrôlés, surréprimés. Je pense que c'est important d'avoir un regard aussi sur ce que les gens ils peuvent raconter de l'intérieur et pas juste être sur de l'idéologie ou de voilà. Mais il n'y a pas besoin de pratiques artistiques pour ça. Il y a plein de collectifs qui luttent contre la prison et qui existent. Et je crois que c'est important de se renseigner là-dessus. Je pense qu'il y a cette question de « c'est trop bien ». En tout cas, quand on a la possibilité et de proposer, et pour les personnes qui sont à l'intérieur, de participer à diverses activités, mais je me demande à quel point ça participe à une paix sociale, genre. C'est un bons souvenirs. Vous vous imaginez bien qu'en prison, il n'y a pas de four avec des thermostats et la cuisson mixte. Quand deux détenus nous ont fait un gâteau dans deux poêles, et j'avoue, j'étais là, waouh. Et qu'ils étaient hyper contents et hyper fiers, et c'était hyper bon.
Pour Ronald, ancien prisonnier politique au Pérou et habitant de la Drôme, la prison a été une école de formation qui lui a permis de connaître la réalité de ce que vivent les personnes détenues, victimes de l'oppression.
J'ai connu les ateliers de pratique artistique, c'est dans les années 90 jusqu'à 2016, dans les prisons d'Alima, avec des prisonniers politiques. Et j'ai vu l'admirable création qu'ils ont fait au niveau de l'écriture. Il y avait un romancier qui a écrit plusieurs de ses œuvres en prison. Il y avait aussi des ateliers de peinture qui ont fait des tableaux qui montraient l'histoire de la nation péruvienne. Les ateliers de céramique, tout ça, ça pouvait être aussi une source de revenus. Il y avait même une danseuse que lors de son engagement politique, elle était emprisonnée, mais elle continuait à faire la danse classique avec les prisonnières. Je crois que la pratique artistique, si elle est liée à découvrir ou à étudier la réalité sociale et politique que vit le pays, les injustices sociales, les droits surtout de la population, sortir de l'incommunication et mettre ça dans la création artistique, ça peut aider beaucoup. Que l'art, l'esprit de lutte, les connaissances de sa réalité et la certitude de qu'un jour, que rien n'est figé, rien ne reste de façon indéterminée et que le monde va changer, c'est une conviction que j'ai rencontrée chez prisonniers et prisonnières politiques assez forte.
Entre occupationnel, commande étatique, achat de paix sociale, la pratique artistique pour l'État prendrait tout son sens au travers d'un objectif de réinsertion. Objectif vendu comme un produit brut et comme finalité de la logique carcérale, souvent mise en échec par la prison elle-même au vu des conditions de détention qui favorisent la récidive. Malgré tout, au regard de toutes ces expériences, je crois que dans un monde où les murs de prison font souvent taire les voix des détenus, la pratique artistique peut offrir des espaces et des temps de rencontre et recréer des liens entre l'intérieur et l'extérieur. Dans le temps carcéral marqué par la monotonie, la répétition des mêmes faits et gestes, sortir de sa cellule, s'occuper, devient alors primordial et permet d'échapper d'une certaine manière à la contrainte carcérale. Je crois que l'art, comme on l'a vu avec Jail Times Record, ou encore la compagnie Lieu Fictif, peut être un puissant outil d'expression et de réhabilitation, offrant un espace libre aux détenus pour trouver du réconfort et du soutien. Une force capable de propulser ceux qui sont privés de liberté physique au-delà du périmètre de leur détention. Je reste persuadée qu'il est nécessaire cependant de repenser la politique de mise en place de la pratique artistique en prison, au vu des différents obstacles qu'elle rencontre. Coupes budgétaires, nombre limité de places aux ateliers, difficultés d'accès aux prisons, et j'en passe. Face à tous ces constats, je me pose la question de savoir quelle vision du monde de demain nous offre à voir la manière dont on traite aujourd'hui nos prisonniers.